le monde au féminin. Féminin. Le monde au féminin. 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 Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge avec vous et avec moi dans le studio Véronique Blay, d'origine ivoirienne et ghanéenne, organisatrice d'événements dans la région de Washington. Un grand merci Véronique d'être avec nous.
Oh, merci.
C'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit, bien entendu, dans Le Monde au Féminin. Vous êtes diplômée de la Montrose Christian School. Vous avez poursuivi vos études à l'Université du District de Columbia. J'ai tout écrit en français. Hein, avec l'ambition de devenir journaliste et humanitaire, vous vous êtes lancée dans le monde de l'écriture et de la politique et de l'organisation d'événements afin de réaliser vos rêves les plus chers. Véronique, vous collaborez avec diverses organisations telles que l'initiative éducative TEBA, qui offre des moyens éducatifs aux enfants défavorisés. Et vous travaillez actuellement sur votre propre talk show. Le spectacle s'appelle Freedom with Véronique. Véronica, hein.
Oui.
C'est la liberté avec Véronique. Vous êtes également correspondante média du Club des immigrés africains, dont l'objectif est d'amener les jeunes de la diaspora à voter. Ça, c'est vraiment bien.
Merci.
Merci beaucoup pour ce que vous faites. Et j'ai noté que vous aviez été à l'Air Force Junior High School Takoradi au Ghana.
Mm-hmm.
C'est une école de l'armée de l'air du Ghana?
Oui, c'est une école au Ghana. Mes parents m'ont juste amené là-bas pour que je puisse apprendre à pour nous améliorer, pas juste à l'anglais aussi, mais aussi dans la vie.
À tous les niveaux, pour la discipline.
Pour la discipline.
C'est l'armée, c'est
oui.
ça?
Mm-hmm.
Et c'était bien ou pas?
C'était bien offert. C'était un peu difficile au début, mais pour une femme, c'est très important pour que tu te sois disciplinée. Donc, ma mère pensait à ça, dit que vous devez être disciplinée, de nous amener là-bas, moi et ma grande sœur.
C'est intéressant. On va parler de l'initiative éducative TEBA. Vous êtes plusieurs et notamment il y a Viola TEBA, donc c'est son nom.
Oui.
Vous pouvez nous parler un petit peu de cette dame?
Oh, Viola TEBA, c'est ma cousine.
Oui.
De m'approcher, elle m'a parlé de l'organisation TEBA Educational Initiative. Je lui ai dit, bon, mon support, je serai avec toi. Et puis, tu sais, il y a beaucoup des enfants qui, quand nous, les Africains, quand nous venons ici en Amérique, on les oublie. Tu vois, moi, j'ai vécu en Afrique et puis je sais comment l'Afrique est. L'Afrique est tellement vraiment difficile parce que nous avons beaucoup de politiciens, mais qui ne pensent pas aussi aux gens qui vivent là-bas. Tu vois, les politiciens maintenant, et pardonnez-moi de dire ça, mais les politiciens de l'Afrique, ils sont vraiment, comment on dit ça, selfish. Ce que je vais dire.
Égoïste.
Et puis, c'est très difficile. Donc, je vois des enfants qui n'ont rien à manger, qui n'ont même pas parti à l'école. Les enfants qui ont perdu leur mère, leur père, qui n'ont rien. Donc, ma cousine, Viola TEBA, m'a approchée pour ce projet. Je lui ai dit, ah, tu as tout mon support. Je serai avec toi. Donc, actuellement, nous sommes en Amérique. Nous sommes à Haïti. Nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes aussi au Ghana.
Et donc cette dame, votre cousine Viola TEBA, elle a écrit, elle a dit « Je crois qu'avec un peu de soutien et d'aide, ces enfants peuvent atteindre leur objectif. Ce projet signifie beaucoup pour moi, non seulement pour redonner aux communautés, mais pour inspirer et motiver la jeune génération. » Vous êtes en plein là-dedans, vous aussi, le fait de vouloir donner à ces enfants, de leur permettre une éducation.
Oui, quand on avait commencé, on n'avait pas beaucoup de support. Donc, l'argent venait dans notre poche. Moi et ma cousine, elle-même, l'argent venait de sa poche. Tout ce qu'elle peut donner, elle dit, Véronique, même si on nous paye 2 $, ces enfants doivent avoir 1 $ dans notre 2 $. Donc, c'est tout ce qu'on faisait. Mais maintenant, les gens ont vu que, oh, c'est une bonne organisation. On peut aussi donner pour que ces enfants puissent avoir une éducation.
Ça date de quand, l'ouverture, la création de cette organisation?
Ça fait plus que 7 ans maintenant.
Okay.
Mais quand on avait commencé, personne, tu sais, quand tu commences un petit business, personne ne te connaît. Mm-hmm. Les gens veulent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, oh, je vais vraiment aider les enfants en Afrique. Mais si tu sais, ils prennent l'argent pour mm-hmm. eux-mêmes. Tu ouais. vois. Mais
qu'on avait. Il faut les rassurer.
Oui. Donc, on avait commencé au début, personne ne voulait donner parce qu'ils mm-hmm. pensaient que, oh, c'est là, ils s'amusent. Mais mm-hmm. on ne s'amusait pas. Quand ils ont vu vraiment qu'on donnait nous-mêmes notre argent, ma cousine Viola, elle voyage toute chaque année. Elle va à Haïti. Chaque année, elle fait ça. Quand les gens ont vu ça, les gens disent, oh, wow, maintenant, je veux aussi être dans cette organisation, je veux vous aider. Donc, maintenant, les gens sont venus avec nous. Maintenant, les gens commencent à travailler aussi.
Vous commencez à être prise au sérieux.
Oui, oui, prise au sérieux, parce que les gens voient que nous sommes sérieux. Et mm-hmm. les gens voient que, maintenant, on a envoyé plus que 4 enfants au collège.
Okay.
Depuis on a commencé, ça fait plus de 7 ans.
Ça, c'est dans quel pays?
C'est au Ghana.
Au Ghana.
Le bureau est ici, à Greenbelt. Mm-hmm.
Dans la presse.
Une hirondelle ne fait pas le printemps. On connaît ça, c'est Angela Merkel qui a dit ça. Elle l'a rappelé à l'occasion du 100e anniversaire de l'obtention du droit de vote des femmes en Allemagne. Je sais que ça vous intéresse, ça, Véronique. Prenant sa retraite politique en 2021, elle a dit refuser de servir d'alibi à la faible proportion de femmes en politique et à fustiger leur sous-représentation à la Chambre des députés, où elles sont environ 30% contre plus de 36% auparavant. Et ça, c'est en Allemagne. Et elle a dit c'est exactement la proportion de femmes qu'a le Parlement au Soudan. Mmh. Ce qui est intéressant, il ne faut pas oublier qu'elle fut aussi la première femme à prendre la tête de la CDU il y a 18 ans, Angela Merkel. Dans un rapport publié à l'occasion de la Journée mondiale de l'accès aux toilettes, un sujet important en Afrique, l'ONG WaterAid estime qu'environ 32 550 000 personnes en Éthiopie n'ont pas accès à des toilettes, bien que l'Éthiopie, on sait que la population est vraiment importante. Au niveau mondial, selon l'ONU, 4 500 millions de personnes vivent sans toilettes et 892 millions sont obligés de déféquer dehors. Plus grave encore, un tiers des écoles, ça vous intéresse, dans le monde, ne disposent pas de toilettes. Ce qui représente environ 620 millions d'écoliers sans toilettes. Et vous savez qu'ils sont en grande partie en Afrique et en Asie. On doit rappeler ici que c'est un problème qui s'aggrave pour les filles pendant la période de menstruation, n'est-ce pas ? Mmh. Tiens, Véronique, je voudrais bien avoir votre réaction par rapport à cette question des toilettes.
Tu as fini avec la question. Ça me gêne
oui.
beaucoup.
Mm.
Ça fait très mal parce que on n'a pas juste les toilettes, le problème des toilettes, même la nourriture à manger, c'est un problème en Afrique. Tu vois, en Éthiopie, nous connaissons l'histoire de l'Éthiopie, ce que l'Éthiopie a souffert, les choses qu'ils ont passées. Donc, mais ma question est, qu'est-ce que le gouvernement fait?
C'est une bonne question.
Qu'est-ce que le gouvernement fait? Ça me dérange beaucoup. C'est vraiment un problème très grand que nous avons en Afrique. Je veux vraiment appeler aux leaders de l'Afrique. Je sais pas juste l'Éthiopie, le Ghana, mais souvent ce sont les autres pays où on n'entend pas de leurs problèmes. Hein. Le gouvernement vraiment doit s'élever à aider les gens parce que tout le monde veut devenir docteur et puis voyager, venir en Amérique, rester dans vos pays et puis aider les gens qui sont là-bas. Nous, on travaille. Moi, je suis venue ici juste pour l'école. Après l'école, qu'est-ce que je vais faire? Si je peux même réparer si au pays, je répare, je perds des gens. C'est à cause de ça que je me suis joint à cette organisation Teba Educational Initiative, même si je suis en Amérique aussi, à pouvoir aider les gens qui sont en Afrique, tu vois. Donc c'est vraiment ça.
Mais c'est plus facile de les aider à partir d'ici que sur le lieu là-bas.
Oh oui, parce que vraiment on dit je pense que vraiment l'Afrique est riche. L'Afrique n'est pas le continent que les gens pensent que on a la pauvreté tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes en Afrique.
Vous me faites penser à Alpha Dee. Vous connaissez Alpha Dee, le styliste?
Non, je.
Vous me faites beaucoup penser à lui. Je vous êtes la même militante, engagée. Je le sens dans le ton de la voix.
Oh,
excusez-moi
merci.
De vous avoir coupé.
Oh, on n'a pas les problèmes. Oh, merci. Donc, ce que je pense que on peut, l'Afrique est vraiment riche. Et puis si on vient ensemble, on peut beaucoup faire des. Pas juste à l'Éthiopie, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali, Burkina Faso, tous ces pays ont besoin de notre aide. On veut pas juste spécialement les Africains qui sont au diaspora ici. Mm-hmm. Quand j'ai dit le DMV, DC, Maryland, en
c'est
Virginie,
la région,
la région. Nous tous qui sommes même
la
en Amérique ici.
La diaspora ici est très active.
C'est très, c'est nous sommes très actifs. On doit vraiment se lever. Mm-hmm. À dire que je comprends que vous avez des problèmes de famille, tout ça. Mais il y a aussi des enfants qui en ont besoin de vous. Tu vois, j'ai vu une vidéo sur Instagram la dernière passée, la fois passée, puis j'ai vu qu'un enfant, des enfants qui ont faim, et puis les gens qui vont en Afrique prendre les photos, merci, les social media. J'ai dit, est-ce qu'ils sont vraiment en train d'aider ces enfants ou c'est juste les photos
qu'ils
veulent
mettre?
Sur toutes
les photos, ça date pas d'hier. On en a pris des millions de photos.
Hein, millions de photos.
De la famine, effectivement, entre autres.
Parole de femme.
Les organisations de défense des droits humains et les parents de l'adolescente Aouaria au Tchad, victime d'enlèvement et de séquestration par le mari qui lui était promis après l'âge de 18 ans, contestent la peine jugée légère prononcée par la cour d'appel de N'Djamena contre Haroun Hissein, la quarantaine, condamné par contumace à un an de prison. Notre correspondant André Kodmadjingar a recueilli des réactions.
Enlevée en décembre 2015 au sud du Tchad à l'âge de 13 ans, puis déportée à l'est du pays, Aouaria a retrouvé ses parents trois mois plus tard. Une action judiciaire a été enclenchée contre Haroun Hissein, présumé violeur de la petite Aouaria pour détournement des mineurs, le 20 avril 2016. Le 30 juin de la même année, le parquet d'instance de N'Djamena a classé le dossier sans suite pour information non constituée. Une décision qui semblait ne pas tenir compte d'une loi sur l'interdiction du mariage d'enfants signée en mars 2015 par le président Déby et qui stipule en son article. Article 4, je cite, est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA toute personne qui contraint par quelque moyen que ce soit une personne mineure au mariage. Fin de citation. Les parents ont donc fait un appel et après 9 renvois, la cour d'appel a enfin rendu le verdict par contumace. Un an d'emprisonnement ferme, une sentence qui est loin de satisfaire la famille de la victime. Saleh Moussa Idriss est le cousin de Aouaria.
Pour nous, c'est un verdict au rabais. Nous faisons 7-8, c'est pas seulement pour cet enfant, mais que ça sert de modèle. Et ça donne aussi le courage à ceux qui se sont tués face à cette impunité de s'élever et de dire non.
La présidente de l'association des femmes juristes du Tchad, Mekombe Thérèse, dénonce la lenteur judiciaire dans ce dossier, alors que la victime faisait partie de la délégation tchadienne à la 71e session des Nations Unies sur le mariage des enfants tenue en 2016 à New York. Les autorités tchadiennes avaient brandi la jeune fille pour la lutte contre le mariage forcé au Tchad. Pour la société civile, la justice a été trop complaisante à l'égard de Haroun Hissein.
Ce bourreau-là ne mérite pas seulement un an de prison. Il a mis un terme à la scolarisation de cette fille et donc de tels actes doivent être punis à la hauteur du préjudice que les victimes ont subi. Aujourd'hui, je pense que Aouaria est une fille maintenant libre. Ce monsieur doit être retrouvé. C'est quelqu'un qui ne doit pas être en liberté. C'est une justice qui a tranché, c'est vrai, mais qui a été trop légère.
Traumatisée, la jeune Aouaria se rappelle du moment dur qu'elle a traversé. Elle affirme avoir subi un traitement cruel et dégradant.
Il m'a enlevée pour une destination inconnue. Ils ont attaché mes bras et mes jambes et m'ont jeté dans la voiture. Arrivé à la barrière de Kiabé, ils m'ont détaché et m'ont menacé avec un couteau. Ils m'ont demandé de me taire, sinon ils vont m'égorger. Ça fait presque 3 ans que l'affaire traîne à la justice.
André Kodmadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invité Véronique Blay. Véronique, votre réaction sur le mariage forcé, le mariage des enfants, les unions forcées.
It breaks my heart, c'est que je peux dire en anglais. Mm-hmm. Ça me brise beaucoup le cœur. Nous sommes en 2018. Les choses comme ça, ce sont des années passées. Pourquoi on fait toujours des choses comme ça? Les mariages arrangés, cette fille qui peut aller à l'école pour avoir une éducation. Je sais pas vraiment.
Ce qui s'est passé dans ce cas en particulier, c'est que c'était une jeune fille qui avait été promise à ce monsieur, mais les parents avaient dit après 18 ans, elle va continuer ses études, et du coup, le mari, l'homme, l'a enlevée. Et la suite de l'histoire aussi, c'est qu'il aurait donné de l'argent au juge pour être libéré plus tôt. Et on ne sait pas où il est,
je crois. C'est dans quel pays, ça?
Ça, c'est au Tchad.
Tu sais, nos parents africains, il y a d'autres qui n'ont pas l'éducation, tu vois. Comment tu peux donner ta fille à un homme, puis un mariage arrangé?
La plupart du temps, la jeune fille, si elle est maltraitée, puis forcément, elle n'a pas à être là-bas, c'est une jeune fille, elle est mineure, elle revient chez ses parents. Et ce qui se passe très souvent, c'est que les parents renvoient l'enfant chez le mari. Mm-hmm. Et ce qui est bien dans ce cas-là, c'est que les parents protègent leur enfant, ce qui n'est pas aussi courant que ça.
You say, mais tu vois, ils protègent les enfants, mais ils laissent aussi l'enfant.
C'est vrai.
Tu vois, les hommes, et pardonnez-moi à dire ça, mais les hommes...
Ils sont revenus quand même sur leur
mentalité. Si elle peut aller à l'école après l'âge de 18 ans, même si, mais c'est déjà tard. C'est déjà tard. Elle a toute sa vie avec cet homme, un grand monsieur que je peux dire. Je sais pas quoi dire parce que je suis tellement découragée, vraiment.
Alors, Véronique, vous allez nous parler de votre show, de votre futur show. Moi, je voudrais bien en savoir plus.
Oui.
Alors, c'est quoi?
Je vais parler, tu sais, j'ai le problème avec le français, je suis toujours...
Non, ça va.
Oh, mais le show, c'est, le nom en anglais, c'est Freedom with Veronica. C'est pour beaucoup encourager les filles, mais pas juste les filles aussi, mais les hommes qui ont, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont parlé, qui me parlent des problèmes qui, des problèmes that they go through. J'ai des amis qui ont été rupes. Quand elles étaient en Afrique.
Ah, violées.
En Afrique. Quand j'avais des filles, même pas juste.
Donc les violences.
Les violences, pas juste avec les hommes qui ne connaissent pas, mais avec leurs propres pères qui les ont violées en Afrique. Même, j'ai des amis ici en Amérique aussi, qui ont vécu des choses, abuse in their home. Et puis donc j'ai beaucoup des amis qui ont vécu ça. Donc ils me parlent beaucoup de ça. Je dis, est-ce qu'on peut avoir.
Les violences sexuelles en famille.
Les violences sexuelles en famille, pas juste en famille aussi, avec des amis. Il y a beaucoup de choses dont j'ai pensé à ça. J'ai dit, ok, je dois avoir quelque chose.
On peut être violé par des propres amis, c'est vrai.
Mais des propres amis, ils viennent chez toi, ils viennent rester. Et puis, il y a quelque chose qui se passe dont j'ai pensé à ça. Je me suis dit, ok, au fait, je dois créer quelque chose que les femmes peuvent venir me parler de leurs histoires. Parce que je sais pas ce que quoi j'ai
fait. Mais alors, on va vous suivre de près. Ça nous intéresse pour le magazine au féminin, Véronique. Merci.
Oh, ça, c'est bien. On doit être ensemble. La dernière fois, je suis venir ici avec ma camarade Thérèse, vous m'avez dit que les femmes doivent être ensemble. C'est beaucoup resté avec moi ce mot. Les femmes doivent être ensemble. Merci beaucoup pour ça. Parce que si vous avez une histoire, vous venez sur Freedom ou Veronica, on parle de problèmes, les conseils que vous pouvez donner aux autres femmes.
Ça sera en anglais, hein, c'est ça?
Ça sera en anglais. Parce que
aux États-Unis, bien sûr, non, c'est normal.
Je suis confortable en anglais, pardonnez-moi.
On espère que ce sera vraiment populaire en tout cas.
Si jeunesse pouvait.
Le débat sur l'éducation sexuelle secoue l'espace public sénégalais suite à la publication d'un rapport de Human Rights Watch sur les abus dont sont victimes les filles à l'école. Notre correspondant Seydina Bagay plonge au cœur du débat à Dakar où il a rencontré des jeunes, des parents et des responsables du milieu éducatif.
Des jeunes commencent à se mobiliser, à s'engager pour mieux vivre leur adolescence en animant l'information sur la santé de la reproduction. Un combat porté par Ndaysay Nobougay qui est le point focal du Ratanga Club au Sénégal.
L'on a vu que l'éducation sexuelle est tabou dans notre communauté. Les jeunes, ils n'en parlent pas. Les parents non plus. Donc nous avons voulu vraiment savoir pourquoi il y a cette barrière. Pourquoi il y a ce voile autour de ces thématiques qui nous concernent personnellement en tant qu'humains, mais que nous devons connaître en tant que jeunes.
Si ces jeunes s'investissent autant, c'est parce que l'éducation sexuelle est l'objet de divergences culturelles dans les familles, avec des jeunes beaucoup plus tournés vers la modernité et des parents plutôt conservateurs. Cette mère de famille avoue qu'il est difficile d'aborder certains sujets avec ses enfants, même si certaines initiatives permettent de contourner ces problèmes.
Parler de sexe est un peu tabou chez nous, donc surtout chez les mères. La mère, en général, ne peut pas parler avec sa fille de sexe. Mais ça tend à disparaître avec des espaces dialogue qu'on organise avec les mamans des jeunes pour qu'il n'y ait pas de conflit de génération.
Pour le docteur Massamba Gueye, il faut respecter les valeurs de nos sociétés traditionnelles et éviter le mimétisme. Le manager de la Maison de l'oralité et du patrimoine au Sénégal veut des jeunes sexuellement bien éduqués, mais dans le respect des normes sociales.
Je pense que la question de la sexualité n'a jamais été tabou dans les familles africaines. Je l'entends souvent, mais c'est archi faux. Elle n'a jamais été tabou, mais il y a des cercles où il faut le dire. Parce que le tabou, c'est ce qu'on ne dit jamais. Ici, il y a des jeunes entre eux avaient une liberté de langue et de ton autour de la sexualité de tout le temps. Nous qui sommes nés dans les villages africains, nous savons cela.
Au Sénégal, l'éducation sexuelle n'est pas encore introduite dans le système scolaire. Certains syndicats d'enseignants estiment que les réalités culturelles sont totalement contre cet enseignement. Le ministère de l'Éducation, quant à lui, affirme que c'est au gouvernement de déterminer souverainement le contenu des enseignements dispensés à ses apprenants. Un contenu qui n'intègre pas pour le moment l'éducation sexuelle, ce qui pousse les jeunes à s'organiser eux-mêmes pour sensibiliser leurs pères. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Véronique, hein, je pense que ce sujet vous intéresse évidemment, notamment à travers l'initiative éducative Théba, hein, que vous avez cofondée avec votre cousine Viola Théba. On parle des écoles et ça c'est très courant aussi, malheureusement, on le dit sans cesse, on l'entend et encore, ces jeunes filles, ces enfants qui sont victimes de violences sexuelles à l'école, par des professeurs, par des enseignants, par des gens qui travaillent dans l'éducation.
J'ai entendu le monsieur dire, c'est pas comme si c'est le tabou. C'est pas le tabou. Au fait, les parents ont peur de ça. Moi, ma mère ne nous a jamais parlé du sexe. Parce que si tu parles du sexe,
c'est pas facile.
C'est pas facile à, aux parents de dire, si tu parles du sexe, c'est comme si tu es en train de faire l'acte sexuel. Ils ont peur de dire les choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas. Souvent, je pense, je dis, mais vraiment, c'est tellement bizarre que nous, les femmes africaines, nous sommes tellement fortes que la manière nous sommes. Parce que les choses comme ça, on ne savait pas, même quand tu as, excusez-moi, il dit, même quand tu as tes règles, on ne parle même pas des choses comme ça parce que.
On se débrouille.
Quand moi, j'étais jeune, je devais me débrouiller. Il y a beaucoup de choses que je devais apprendre, que mes parents ne m'ont pas appris. C'est quand je suis venue en Amérique ici, je vois. Je dis, waouh, donc c'est facile. Les gens disent des choses comme ça sans même avoir des problèmes.
C'est une question de génération aussi. Bon, c'est vrai que vous êtes jeune, mais c'est aussi une question de génération. Je peux vous dire qu'en Europe, c'est exactement la même chose.
Vraiment ?
Oui. Ah. Oui, oui, c'est une question de génération et les tabous, ils traversent vraiment les générations sur toute la planète.
Oh, moi, je pensais, je connais juste l'Afrique, donc moi, je pensais que c'était le continent de l'Afrique. Parce que c'est un problème, c'est quelque chose qui doit changer beaucoup. On doit commencer à enseigner, même si les parents ne peuvent pas enseigner les enfants à la maison à propos des actes sexuels et les choses comme
ça. Et c'est pour ça qu'on fait dans les écoles occidentales l'éducation sexuelle à l'école.
Oui.
C'est bien parce qu'on s'est rendu compte que les parents, ils assurent pas, quoi.
Vraiment, je vais dire ça avant qu'on continue, mais on pense vraiment que les enfants les jeunes filles qui sont beaucoup, qui tombent enceintes à l'âge de 13 ans, 12 ans, c'est juste ici, en Amérique ou bien en Europe. Non, il y a beaucoup de ça en Afrique, mais on ne parle pas de ça. Parce que les filles ne savent pas comment se protéger. Elles vont juste, comme l'homme dit, je t'aime, ces jeunes filles, elles ne connaissent pas. Elles sont juste.
Et puis les hommes ne sont pas du tout responsabilisés.
Ils sont pas.
On a toujours tendance à dire mettre la faute du côté de la fille, de la femme, mais c'est l'homme qui doit être responsable.
C'est l'homme
aussi.
C'est à cause de ça. When I joined the African Immigrant Democratic Club, je me suis décidé. Je dis, ok, cette plateforme, ça peut aider pas juste les filles ici en Amérique, mais aussi les filles qui sont en Afrique. Donc si je peux dans le politique, elle n'est pas être ne peut utiliser mon plateforme pour quelque chose d'autre. Je veux juste aider les jeunes filles en Afrique.
Mais l'avantage avec les médias sociaux maintenant, YouTube, etc., c'est que votre émission, elle peut être vue dans le monde entier.
Oui,
donc l'émission, forcément, ces problèmes dont nous parlons sont universels. Et d'autres jeunes filles vont le voir à l'autre bout de la planète.
Oui, et puis aussi, j'ai l'opportunité d'être à la télé. Que ça soit juste à la télé. Je veux qu'on parle de ça aussi à l'action. Pas juste parler de ça et puis laisser. Parce que maintenant, avec les social media, les gens parlent beaucoup.
Vous avez pensé à la politique, à vous présenter dans des communes aux États-Unis
Il y a quelqu'un m'a parlé de ça. Je pense toujours à ça. Quand le temps va arriver. Oui, ça viendra.
Mais en tout cas, ça vous intéresse?
Oui, ça m'intéresse beaucoup. Je veux juste aider les jeunes filles. Et puis, les jeunes
en général.
Il y a les jeunes en général. Si j'ai l'opportunité de faire ça, ça me fera le plaisir toute ma vie. C'est tout ce que je vais faire.
Et il y a un gros besoin aux États-Unis. On le sait, nous qui vivons ici, n'est-ce pas?
Oui, il y a un grand besoin. Les gens besoin d'aide. Aidez des gens en Afrique, aidez des gens en Amérique ici, aidez, partout où vous êtes, aidez des gens.
Véronique Blais, un grand merci. C'était vraiment un plaisir. Le temps passe très vite avec vous.
Oui.
Vous avez beaucoup d'énergie.
Oui, j'ai de l'énergie.
De volonté. Vous avez un très bon cœur.
Oh,
il faut
merci.
Absolument que vous fassiez du mannequinat.
Je pense à ça.
En plus de tout ça, je vous remercie beaucoup. J'espère vous revoir bientôt. Un grand merci à Fredner Kayemit et à Wagner Robert à la production. Et bien sûr, le plus grand des merci à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.